Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Sélection du Reader's Digest, Liberté et La Conversation. Au programme, 15 mauvaises habitudes qui peuvent endommager la peau, qui fait la ville et qui la défait, et comment caresser un chat selon la science. Bonne écoute.
Mauvaises habitudes qui peuvent endommager la peau. Un texte de Tina Donvito, paru le 31 janvier 2022 dans le magazine Sélection du Reader's Digest. Bien sûr, vous lavez votre visage régulièrement et pourtant, vous luttez contre l'acné d'adulte, les rides et autres problèmes de peau. Voici pourquoi il faut connaître les mauvaises habitudes qui peuvent endommager la peau. Utilisez une éponge Lufa. Vous pensez peut-être que vous éliminez la saleté lorsque vous vous lavez avec une éponge Lufa ou un gant de crin, mais vous pourriez en fait nuire à l'équilibre délicat des bonnes bactéries sur votre peau. Nous comprenons maintenant que pour maintenir la santé de la peau, nous devons protéger les bons microbes qui composent le microbiome naturel de la peau, déclare la dermatologue Whitney Bauer, auteure du livre « The Beauty of Dirty Skin ». Des études ont montré que nos microbes naturels peuvent prévenir l'infection, contrôler l'inflammation, aider à la cicatrisation des plaies et même préserver l'apparence d'une peau jeune, dit l'auteur. Elle conseille d'exfolier sa peau en utilisant simplement vos mains au maximum 2 fois par semaine plutôt que de procéder à un nettoyage agressif qui peut endommager la peau. Prendre des douches chaudes. Peut-être pensez-vous avoir besoin d'eau chaude pour tuer les germes ou peut-être aimez-vous simplement la façon dont la chaleur détend vos muscles, mais les douches chaudes ne sont pas les meilleurs amis de votre peau. Les douches chaudes enlève à votre peau ses huiles naturelles, la dessèche, tout en provoquant potentiellement la prolifération d'insectes cutanés hostiles, explique la dermatologue. J'encourage mes patients à prendre une douche tiède pour préserver la barrière d'hydratation de leur peau et sa santé globale, ajoute-t-elle. Ne pas se laver le visage. Selon un sondage, plus de la moitié des gens interrogés omettent souvent de se laver le visage avant de se coucher. Cela entraînera une accumulation de saleté et de vieilles cellules cutanées, surtout si vous appliquez un maquillage épais. L'Académie américaine de dermatologie conseille de se laver le visage 2 fois par jour et après avoir beaucoup transpiré, comme après une séance d'entraînement. Whitney Bowe recommande de s'assurer de se laver avec des nettoyants doux et hydratants. Boire du lait écrémé. Les produits sans gras, bien que vous pensez qu'ils vous éviteront de prendre du poids, peuvent en fait nuire à votre peau. Une étude de l'Université d'État de Pennsylvanie a trouvé un lien étroit entre la consommation de lait écrémé, donc pas de lait entier, et des cas plus importants d'acné. Les protéines du lait, le lactosérum et la caséine, peuvent avoir un impact sur les niveaux d'insuline et déclencher une inflammation systémique majeure, explique Whitney Bowe. Il est important de noter que le lactosérum et la caséine sont souvent ajoutés en quantité importante au lait écrémé afin d'aider à épaissir ce dernier exempt de matière grasse. La dermatologue suggère plutôt des laits d'amande, de chanvre, de lin ou de noix de coco. Les bons ajustements alimentaires pourraient même vous aider à vous débarrasser de la peau de poulet, également connue sous le nom de kératose pilaire. Boire des boissons gazeuses diète. Les édulcorants artificiels sont liés à l'acné, au diabète et à la rosacée, note Whitney Bowe. Des études émergent suggérant que les édulcorants peuvent affecter les niveaux d'insuline, augmenter l'inflammation et modifier la composition des bonnes bactéries dans votre flore intestinale, et tout cela peut paraître sur votre visage. Des niveaux élevés d'insuline sont la principale cause de déséquilibres hormonaux et de troubles cutanés, en particulier l'acné, explique Whitney Bowe. Étant donné que les édulcorants artificiels perturbent votre équilibre glycémique, ils sont également capables de déclencher des problèmes de peau, ajoute-t-elle. Manger des aliments transformés. Les aliments transformés affectent non seulement votre tour de taille, mais aussi l'apparence de votre peau, et cela vaut même pour les aliments censés être sains, comme les barres énergétiques. Les aliments transformés contiennent des glucides et des sucres raffinés qui ont été scientifiquement liés à l'acné et au vieillissement prématuré de la peau, explique Whitney Bowe. Cette malbouffe, déficiente en fibres, ralentit la digestion et perturbe vos microbes intestinaux qui sont sains, provoquant une inflammation intestinale, explique Whitney Bowe. Au lieu de cela, consommer des aliments entiers avec un indice glycémique faible ou moyen, comme les légumes-feuilles, le quinoa, les patates douces et les asperges. L'avoine coupée, du gruau d'avoine qui a été coupé en petits morceaux plutôt qu'aplati, est également à prioriser. Prendre des antibiotiques. Selon une étude des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies, au moins 30% des antibiotiques prescrits aux États-Unis ne sont pas nécessaires. L'utilisation excessive de ces médicaments peut créer des superbactéries résistantes aux antibiotiques et tuer les bonnes bactéries dans vos intestins et sur votre peau. Ces bonnes bactéries ont le pouvoir de combattre les microbes infectieux et l'inflammation endémique sous-jacent aux troubles cutanés et aux maladies inflammatoires systémiques, explique Whitney Bowe. Notre obsession pour les savons antibactériens et les désinfectants pour les mains exacerbe ce problème, souligne la dermatologue. Poursuivons avec la liste des 15 mauvaises habitudes qui peuvent endommager la peau. Un texte de Tina Donvito, paru le 31 janvier 2022 dans le magazine Sélection du Reader's Digest. Omettre l'application de crème solaire. Ce n'est pas une nouvelle, la crème solaire peut aider à prévenir les problèmes de peau, y compris le cancer de la peau. Mais pour cela, vous devez en appliquer quotidiennement et pas uniquement lorsque vous allez à la plage ou à la piscine. L'exposition au soleil est la première cause de vieillissement prématuré de la peau, note la dermatologue. J'utilise un écran solaire tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, même en hiver, sur le visage et le cou, confie-t-elle. Lorsque vous êtes à l'extérieur en été, elle suggère également le port d'un chapeau mou, d'un maillot de bain anti-UV et de vous installer à l'ombre lorsque cela est possible. Ne pas porter de lunettes de soleil. Les lunettes de soleil ne protègent pas seulement vos yeux, elles protègent la peau délicate de vos paupières. Selon l'Académie américaine de dermatologie, le port de lunettes de soleil peut aider à réduire les rides causées par le strabisme. Assurez-vous donc de porter des lunettes de soleil avec protection UV et nettoyez-les fréquemment pour éviter l'accumulation de saleté sur les plaquettes nasales, ce qui peut irriter votre peau. Consommez de l'alcool. L'une des façons dont vous pourriez vous déshydrater est de boire fréquemment de l'alcool. Cela peut faire des ravages sur votre peau qui a besoin d'humidité. L'alcool déshydrate votre peau en plus d'agir comme un diurétique et d'affecter l'hormone appelée vasopressine qui commande normalement à vos reins de réabsorber une partie de l'eau qui est sur le point de quitter votre corps dans votre urine, explique Whitney Bowe. L'alcool entrave la production de vasopressine, de sorte qu'il ne permet pas à votre corps de réabsorber l'eau dont il a besoin. La résultante est que votre peau aura l'air fatiguée et sera de teinte jaunâtre, avec des ridules, des rides et des pores plus prononcés, poursuit-elle. Évitez les légumes. Si vous ne mangez pas suffisamment de fruits et de légumes riches en antioxydants, votre peau sera en carence. De nombreuses études ont démontré que les antioxydants peuvent ralentir ou même inverser les signes du vieillissement, y compris les ridules, les rides et les taches brunes, en protégeant la peau des ravages des coups de soleil, de l'inflammation et même des dommages à l'ADN, explique Whitney Bowe. Les antioxydants aident à étouffer et à neutraliser les radicaux libres pour les empêcher d'endommager votre peau. Ils peuvent également calmer les réponses inflammatoires qui alimentent les affections cutanées telles que l'acné, l'eczéma, la rosacée et le psoriasis. À cet effet, Whitney Bow conseille de consommer tout ce qui est de couleur vive, comme les tomates, les baies, les carottes et les patates douces. Elle conseille également d'utiliser des produits de soins de la peau antioxydants. Fumer. Les toxines présentes dans les cigarettes augmentent la production de radicaux libres tout en abaissant la capacité du corps à les combattre. Lorsque vous êtes exposé à beaucoup de radicaux libres, cela signifie que vous souffrez de stress oxydatif. Et trop de stress oxydatif peut entraîner un vieillissement prématuré de la peau, explique la dermatologue Whitney Bow. Le potentiel antioxydant du corps des fumeurs est gravement affaibli et dépassé par le volume d'oxydation, note-t-elle. Les facteurs de stress environnementaux font certes des ravages sur toutes les peaux, mais le tabagisme accélère ce processus, selon certaines études. Lésiner sur le sommeil. Nous n'appelons pas cela un sommeil réparateur pour rien, lance Whitney Bow. Les cellules du corps se régénèrent pendant le sommeil, donc, quand vous n'en avez pas assez, le renouvellement cellulaire, y compris celui de la peau, s'arrête et vous vous retrouvez avec une apparence de la peau terne, ajoute-t-elle. Ne pas dormir peut entraîner des cernes, des rougeurs et des rides et peut même contribuer au vieillissement de la peau, selon certaines études. De plus, la privation de sommeil affecte la fonction de barrière naturelle de la peau et peut entraîner une sécheresse et une sensibilité accrue à l'irritation, explique Whitney Bow. Renoncer au café. Une habitude qui pourrait être bonne pour vous est votre tasse quotidienne de café. En plus d'autres avantages pour la santé en quantité modérée, certaines propriétés du café peuvent aider à garder votre peau en bonne santé. Bien que nous pensions généralement à des fruits et à des légumes colorés lorsque l'on parle d'antioxydants, étonnamment, les flavonoïdes du café en contiennent également une puissante dose, met de l'avant Whitney Bow. Ces antioxydants combattent le vieillissement prématuré dû aux radicaux libres nocifs, à la lumière et à la pollution, termine-t-elle. Elle conseille toutefois de s'en tenir à une ou deux tasses par jour, puis de passer au thé vert ou au matcha pour faire davantage le plein d'antioxydants. Percer ses boutons. Percer les boutons est particulièrement mauvais pour votre peau, car vous poussez les cellules inflammatoires plus profondément dans le derme, ce qui augmente le risque de taches brunes et de cicatrices, note Whitney Bow. Mon meilleur conseil? La prévention. À cet effet, l'utilisation d'un rétinol sur tout le visage est un excellent moyen de prévenir les boutons, recommande Whitney Bow. C'était 15 mauvaises habitudes qui peuvent endommager la peau, un texte de Tina Donvito, paru le 31 janvier 2022 dans le magazine Sélection du Reader's Digest. Qui fait la ville et qui la défait? Un texte de Valérie Lefebvre-Fauché, paru le 2 décembre 2022 dans la revue Liberté. Au coin de chez moi, dans le sous-sol de l'église, il y a un refuge. C'est un beau refuge tout neuf. Enfin, comprenez-moi bien, tout a été récupéré là-dedans. Il n'y a pas là le moindre objet qui puisse rappeler un magazine de décoration. Et quand je dis beau, je ne parle pas de l'esthétique. Vous savez à quoi ressemble une catastrophe? Vous pouvez imaginer ces rangées de lits de camp entourés de plastique, les affichages au duct tape, l'urgence pérennisée. Mais je dis que c'est beau parce que les gens y sont formidables, fiers de leurs projets, généreux et débrouillards. Et nouveau parce que de l'hébergement pour les personnes en situation d'itinérance, il n'y en avait pas dans le nord de la ville avant. Jusqu'à ce que les confinements, la hausse du coût de la vie et la crise du logement fassent exploser le nombre de personnes à la rue. Il avait toujours fallu se rendre au centre-ville, beau temps, mauvais temps, transport, pas transport, pour trouver ce genre d'aide. Maintenant, grâce à cette équipe de travailleurs, travailleuses, de rue, motivés et d'organisateurs, organisatrices communautaires qui ont toute mon admiration, on peut enfin être réfugié près de chez soi. C'est plus décent. Oui. Certaines des personnes qui se retrouvent là tous les soirs ont grandi juste à côté. On les connaît bien. Elles sont allées à l'école en face. Elles ont mangé, travaillé, rêvassé sur cette rue. Elle n'a rien de chic, la rue, avec son petit air de village oublié, ses maisons délabrées, ses familles de locataires. Mais c'est une des plus vieilles du quartier. J'apprends à connaître son histoire. Une rue où il y a toujours eu beaucoup d'actions. Des choses qu'on ne veut pas voir. Drogue, travail du sexe, itinérance, mais aussi de tout ce qui fait de belles photos. Mariage, tournage et défilé. Sur cette rue, un immeuble vient d'être racheté par une compagnie californienne. Les résidents et résidentes se font expulser par quelqu'un qui n'a peut-être vu le coin que sur un écran, qui n'a jamais fréquenté le garage ou la buanderie, qui n'a jamais marché dans les ruelles, jamais entendu les accents de Villeray. Ses voies couvertes par le bruit des avions qui déploient leur train d'atterrissage. Quelqu'un qui sait seulement que cette revente rapportera gros. D'autant plus que ces locataires précaires n'auront pas l'énergie de résister, que les citoyens et citoyennes de cette ville ne savent pas comment s'organiser pour y rester. Je me suis souvent demandé, cette année, de quoi est fait un quartier? Comment se fait-il que les gens qui y ont construit une vie perdent tout espoir d'y habiter? La ville où je suis né me semble plus hostile que jamais aux pauvres, peut-être même carrément aux humains. Nous sommes des taches, bien malpropres et bien improductives, dans les projections lisses des promoteurs immobiliers qui surplombent nos maisons depuis les panneaux publicitaires. Que deviennent les villes du monde quand elles expulsent leurs habitants-habitantes pour laisser plus de terrain aux grands jeux de gestion online? Mon quartier n'a pas 150 ans. Son histoire n'est pas racontée. Nous ne savons presque rien de ce qui s'y passait pendant les siècles précédant la colonisation et il a toujours été un lieu de passage. Mais nous y vivons. Nous voudrions en prendre soin. Est-ce que vraiment, ça ne compte pas, ça? Juste en face du refuge, un promoteur a démoli une maison historique pour ériger un immeuble en copropriété. Ces appartements, pour prétendre au chic, ne vantent pas leur élégance, leur cour verdoyante ou leur construction en matériaux durables, non. Pour se donner un air luxueux, le projet mise sur l'image du quartier qu'il défigure et quelques mots-clés comme « district », ça fait New York, ou « rosaire », ça fait folklorique. Je vous parle de la rue d'à côté, mais ce phénomène arrive un peu partout, pendant que nous ne savons pas trop ce qu'il y aurait lieu de protéger ni par quels moyens. Ça va vite. Tous et toutes les habitants et habitantes du monde sont affectés par la danse centrifuge des habitations à vendre, le tango des refuges et des expulsions. Et je me demande, mais comment peut-on se prétendre bâtisseur d'un endroit qu'on n'habite pas? Savons-nous penser autrement qu'en propriétaire? Faire entendre et valoir les usages, le sens des lieux? Je sais que des tas de propriétaires, c'est dans leur intérêt, prennent bien soin de leur quartier et trouvent à leurs frais des moyens écolos et inventifs de résister à la spéculation. Mais les gens qui installent des refuges, des garderies, des bibliothèques, des cantines, etc., s'il le faut dans les ruines, ont compris quelque chose à propos des villes et des communautés. Il rappelle que nous savons bien, au fond, ce que signifie habiter quelque part et que ce n'est pas une question de possession. C'était « Qui fait la ville et qui la défait ?» un texte de Valérie Lefebvre-Fauché paru le 2 décembre 2022 dans la revue Liberté.
Comment caresser un chat selon la science? un texte de Lauren Finca paru le 26 juillet 2019 dans le magazine La Conversation. Plusieurs d'entre nous avons déjà fait cette expérience. Nous caressons un chat en apparence super sympathique. Il semble aimer ça durant une minute, puis bang, il nous mord ou nous griffe l'instant d'après. Il pourrait être facile à ce stade de blâmer le chat. Mais ce qui se passe probablement ici, c'est que nous ne les caressons pas comme il faut. Pour comprendre pourquoi, nous devons d'abord en savoir un peu plus sur l'ascendance de Minou. Il est probable que les ancêtres du chat domestique, le chat sauvage africain, étaient considérés comme de simples parasites. Mais les chats des temps modernes sont souvent traités comme de précieux compagnons ou même comme des bébés fourrures. Ce changement social dans la relation humain-chat se serait produit il y a environ 4000 ans, un peu plus tard que le meilleur ami de l'homme, le chien domestique. Bien que cela puisse sembler suffisant pour qu'une espèce s'adapte complètement aux exigences sociales, il est peu probable que ce soit le cas pour votre ami félin. Les chats domestiques présentent également une divergence génétique relativement modeste par rapport à leurs ancêtres, ce qui signifie que leur cerveau est probablement encore branché pour penser comme celui d'un chat sauvage. Les chats sauvages sont des êtres solitaires et investissent beaucoup de temps et d'efforts à communiquer indirectement, par le biais de messages visuels et chimiques, et ce, juste pour éviter d'avoir à se voir les uns les autres. Il est donc peu probable que les chats domestiques aient hérité de leurs parents lointains de nombreuses aptitudes sociales complexes. L'être humain, en revanche, est une espèce intrinsèquement sociale qui favorise la proximité et le toucher lors des manifestations d'affection. Nous sommes également attirés par des caractéristiques d'apparence infantile, de grands yeux et un front large, un petit nez et un visage rond. C'est pourquoi la plupart d'entre nous trouvons les visages des chats si mignons. Il n'est donc pas surprenant que notre première réaction lorsque nous voyons un chat ou un chaton soit de vouloir le caresser, le câliner et le tâter partout. Il ne faut donc pas s'étonner que de nombreux chats puissent trouver ce type d'interaction un peu lourde. Affection féline. Bien que beaucoup de chats aiment être caressés, et dans certains contextes nous choisirons plutôt que la nourriture, l'interaction humaine est quelque chose qu'ils doivent apprendre à apprécier pendant une période sensible relativement courte, entre 2 et 7 semaines. Lorsqu'il s'agit d'interaction humain-chat, les caractéristiques des humains sont également importantes. Nos personnalités et notre sexe, les régions du corps du chat que nous touchons et la façon dont nous traitons généralement les chats peuvent tous jouer un rôle important dans la façon dont le félin réagit à notre affection. Étant dit que certains chats peuvent réagir agressivement à une attention physique non désirée, d'autres peuvent simplement la tolérer en échange de bonnes choses, nourriture et logement. Cela dit, un chat tolérant n'est pas nécessairement un chat heureux. Des niveaux de stress plus élevés sont rapportés chez les chats qui sont décrits par leurs propriétaires comme tolérants plutôt que détestant activement les caresses. Comment caresser un chat? La clé du succès est de se concentrer sur le fait d'offrir au chat autant de choix et de contrôle que possible pendant les interactions. Par exemple, le choix d'indiquer s'ils veulent être caressés ou non et de contrôler où nous les touchons et combien de temps. En raison de notre nature tactile et de notre amour des choses mignonnes, cette approche peut ne pas venir instinctivement à beaucoup d'entre nous. Et il faudra probablement faire preuve d'un peu de retenue. Mais cela pourrait s'avérer payant, car la recherche montre que les interactions avec les chats dureront probablement plus longtemps lorsque le chat, plutôt que l'humain, les initie. Il est également très important de porter une attention particulière au comportement et à la posture du chat pendant les interactions pour s'assurer qu'il est à l'aise. Quand il s'agit de toucher, en faire moins et souvent mieux. Ceci n'est pas seulement vrai lors des manipulations vétérinaires, mais aussi lors de rencontres plus détendues. En général, la plupart des chats aimables aimeront être touchés dans les régions où se trouvent leurs glandes faciales, y compris à la base de leurs oreilles, sous leur menton et autour de leurs joues. Ces endroits sont habituellement préférés au ventre, au dos et à la base de la queue. Les signes de plaisir chez le chat. La queue est maintenue droite et amorce le contact. Ronronne et pétrit avec ses pattes de devant. Agite doucement la queue d'un côté à l'autre tout en la tenant en l'air. Une posture et un visage détendu, les oreilles dressées et pointées vers l'avant. Vous donne un petit coup de pouce si vous faites une pause pendant que vous les caressez. Les signes d'aversion ou de tension. Déplace, bouge ou tourne la tête loin de vous. Reste passif, pas de ronronnement ni de frottement. Clignote exagérément, secoue la tête ou le corps ou se lèche le nez. Rafale rapide et courte de toilettage. Peau qui ondule ou se contracte, habituellement le long du dos. Frappe ou bas de la queue. Oreilles aplaties sur les côtés ou tournant vers l'arrière. Un virage brusque de leur tête pour vous faire face. Mord, glisse ou frappe votre main avec sa patte. La question de savoir si les chats font de bons bébés fourrures est donc très discutable. Beaucoup de chats aiment être touchés, mais pas tous, et plusieurs le tolèrent au mieux. En fin de compte, cependant, quand il s'agit de chats, il est important de respecter leurs limites et le chat sauvage qui est toujours en eux, même si cela signifie admirer leur beauté de loin. C'était « Comment caresser un chat, selon la science », un texte de Lauren Finca, paru le 26 juillet 2019 dans le magazine La Conversation.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canalem à l'adresse canalem.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Jocelyne Langevin à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.